ce jour dédié à l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane. Alors la question de Yona.
Quel est l'intérêt de faire tshuva sur une chose qu'on va forcément refaire au bout d'un moment après le pardon?
Après
le pardon,
après le jour du pardon, après Yom Kippour. Bon, donc la tshuva, c'est trois étapes. Reconnaître, dire j'ai péché, j'ai fait ça et ça. Deux, regretter. Trois, prendre sur soi de ne plus jamais le faire. Plus jamais. Ça, c'est pour qu'une tshuva soit totale. Ça veut dire que le péché est pardonné, ou en tout cas extrêmement diminué. Ça dépend. C'est tshuva par amour, c'est transformé en mitzvah. C'est tshuva par crainte, et les choses volontaires sont changées en involontaires. Alors, toi, tu parles d'une tshuva qui n'est pas complète. Ben, c'est clair que c'est mieux qu'une tshuva, c'est mieux que rien. C'est comme, on peut quantifier de 0 à 10. Une tshuva complète, c'est 10. D'accord, on va dire tshuva par amour, c'est 10. Tshuva par crainte, on va dire c'est 9. Quelqu'un, il fait 8, 7, 6, 5, 2, 1. C'est mieux que 0. On voit le cas de Bilham. Bilham va pour maudire le peuple d'Israël. Et un ange se dévoile face à son ânesse, par trois fois. À chaque fois, l'ânesse, elle dévie. Et à la fin, la troisième fois, elle est entre deux murs. Elle ne peut pas dévier, alors elle croupit par terre. Et Bilham se met à l'abattre. Du coup, l'ange se dévoile, tue l'ânesse. Et dit à Bilham, pourquoi tu la frappes? Parce qu'elle m'a vu. Et normalement, c'est toi que j'aurais dû tuer. Bilham dit, Khatati, j'ai péché. Khazal disent que par cela, il a mérité la mort. Il n'a pas dit j'ai péché, il aurait été tué par l'ange. L'ange aurait tué les deux. Bon, qu'est-ce qu'il fait après? J'ai péché, donc il a fait tshuva. Je regrette, je reconnais que je n'ai pas fait, donc stop. Il achète une deuxième ânesse et il repart maudire à Israël. Il continue dans la même voie. Néanmoins, le simple fait d'avoir dit j'ai péché, déjà, ça évitait la mort. Donc ce n'est pas une tshuva complète. Et puis là, il a appelé Bilham Aracha. C'est un mécréant. D'accord? C'est un gros mécréant. Mais on voit que c'est comme ça. Déjà, tu fais un petit acte de rapprochement vers Dieu. Ça a déjà un impact. Et Dieu comprend qu'on ne pouvons pas, comme je dis souvent ici, nous ne sommes pas des crêpes. Venir à l'Yeshiva, et une crêpe, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça, par contre, zip, tac, on la met à l'envers. Tu viens à l'Yeshiva, il est normal, et tout coup, il devient anormal. Ou au contraire, il était anormal, tout coup, il devient normal. En deux mots, il change de tête. Mais dis-moi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je suis allé à l'Yeshiva, tu sais, là, un bourrage de crâne, hop, on a les perroques, la barbe, voilà. Non, on ne peut pas. On ne peut pas changer, on n'est pas des crêpes. On peut changer progressivement, lentement, intelligemment, humainement. Ce n'est pas humain de changer rapidement. Il y en a. J'en ai vu ici après un mois, avec des péotes. Après deux mois, ils étaient en boîte, avec plus rien. D'accord? C'est rien, c'est rien, c'est pas construit. Donc Hachem comprend. Hachem veut qu'on avance. Et une avance sérieuse, même petite, elle vaut beaucoup plus qu'une grosse avance qui ne tiendra pas longtemps. Yetzer Hara se bat pendant ces jours-ci de nous faire. C'est un Yetzer Hara que j'ai personnellement et tout, beaucoup de gens ont ça. Qu'on vient avec. C'est marqué que Rabbeinu Arachash, le Rachash, c'est un des plus grands kabbalistes. Le plus grand kabbaliste des trois derniers siècles. D'accord? C'est lui qui a développé les intentions kabbalistiques. Rabbeinu Ari parle d'intentions kabbalistiques, mais lui a écrit dans un Sidour qu'est-ce qu'il faut penser exactement. Et là, il a. Je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment pour en parler, mais. Il a développé ça, en deux mots. C'est un très grand kabbaliste. Il écrit que celui qui, pendant les sonneries de Rosh Hashanah, il prend sur lui, il fait tshuva sur une chose, il prend sur lui une kabbalah, il prend sur lui une chose, mais qui tiendra très fort. C'est clair qu'il va la tenir. Petite chose. Il est déjà, sur place, inscrit dans le livre des tzadikim. Une petite chose.
Est-ce que c'est complet?
Parce que c'est solide. C'est pas complet du tout. Le reste, il reste le même mécréant.
Mais en profondeur, il veut le faire. Mais il le fera jusqu'au bout.
Voilà.
Même
mais
c'est une toute petite chose.
Voilà. Ce que Dieu veut, c'est le petit millimètre, mais solide. Et ça a beaucoup plus de valeur que des kilomètres pas solides. Donc, à nous bien de bien réfléchir les grands rabbinim réfléchissaient des mois avant Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'ils allaient prendre pour la nouvelle année. Des mois et des mois. C'est très dur. Pas trop léger. Des fois, quelqu'un, il prend, je sais pas, moi, un truc super léger. Hein? C'est très dur, ça. Chaque fois que tu passes, on brosse la mezouza.
C'est
pas rater une fois. C'est pas obligatoire, en plus.
Je
regarde, c'est obligatoire, de toute façon. Ah, il prend sur lui. Très bien. Ça, c'est une bonne chose. D'accord? C'est un truc petit.
Tachema
à la mita. C'est un truc petit. C'est bien. Non, c'est bien, c'est des trucs bien. Ça, ce sont des trucs bien.
Mais si on ne tient pas, il y a des malédictions, des trucs.
Ah non, on sort Shabbat à l'avance, par exemple. Ouais, c'est des trucs bien.
Si on ne tient pas, vaut mieux ne pas prendre. Parce qu'on dit si on ne tient pas, il y a plein de malédictions. Non,
restons calmes. Il y a des choses qui s'appellent un neder. De toute façon, quand on prend sur soi, on dit toujours bli neder. À moins que ce soit une chose qui soit obligatoire. Neder, c'est comme un serment. Maintenant, un serment. Il a une valeur de serment qui est très dangereuse si on ne la fait pas, seulement quand c'est une chose qui n'est pas obligatoire. Tu fais serment d'embrasser la mezouza. C'est pas obligatoire d'embrasser la mezouza. C'est juste bien. Fais serment sur un Shabbat plus tôt, comme tu dis. C'est pas obligatoire. Fais serment de, je sais pas moi, de lire Birkat Hamazon dans le Sidour. Fais serment de ne pas quitter la synagogue avant de finir Alum Shabbat. Il y a une tas de petites choses comme ça que les gens prennent d'habitude. Toutes ces choses-là sont un serment. Donc il faut dire blineder. Blineder, sans serment, sans neder, sans vœu, je prends sur moi ça et ça et ça. Ok, très bien. Si par contre on prend une chose du type, je prends sur moi de dire à Chayatsar après que je vais aux toilettes. Je prends sur moi de, qu'est-ce que je dis encore ici? De dire Shema Israël le soir comme il faut avant d'aller dormir. Ça, il n'y a aucun serment. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont déjà obligatoires par la Torah. Donc tu as porté déjà serment, tu as fait le serment déjà au Mont Sinaï de les faire. Quand tu as dit. Ton âme était au Mont Sinaï, t'as dit à Dieu, j'accepte de faire la Torah, t'as pris sur toi Shariatzar, t'as pris sur toi Kretchemach Alamita, t'as tout pris.
Il n'y avait pas tous ces bras proches là.
Hein?
Sinaï, il n'y avait pas tous.
Non, mais t'as pris aussi tout ce que les rabbins.
Il n'y avait pas de toutes les bras proches.
Je comprends la question, je te réponds. T'as pris sur toi aussi de faire. Dans la Torah, c'est marqué que nous écouterons les rabbins ce qu'ils diront à chaque génération. La Torah écrite nous oblige d'écouter ce que diront les rabbins à chaque génération. Les grands, pas les rabbins. Réformés ou ma sortie, d'accord. Je parle les rabbins sérieux, d'accord. Les rabbins sérieux, les grands de la génération, les grands en Torah, il y a l'obligation d'écouter ce qu'ils disent. De là provient toute l'obligation d'écouter la loi orale. Sinon, chacun fait ce qu'il veut. Donc, on a pris le vœu. Donc, pour les choses sur lesquelles on a déjà pris serment auparavant, alors dire maintenant, je prends sur moi de faire Chayassar, tu peux le dire sans dire Blender, et c'est très bien. D'accord. Je prends sur moi de regarder deux filles, je prends sur moi, bon, ça c'est un truc solide, hein. D'accord. Alors, je prends sur moi de faire des efforts dans ce sens. Je prends sur moi de faire du moussard sur le sujet. Je prends sur moi de faire du moussard sur la chanara. Je prends sur moi de faire du moussard tous les jours, blinéder. Quand je dis faire du moussard, ça c'est blinéder, c'est pas obligatoire. D'accord? Donc bien savoir si c'est obligatoire ou pas. Tu peux rien à dire blinéder de toute façon. Tu dis blinéder. Hein?
Pendant le chauffard, on parle ou on tient la tête?
Alors, c'est une autre question. Est-ce que dans le chauffard, on parle oui ou non? Ça, tu peux. C'est bien pas. Tu peux. Dieu sonde les cœurs, d'accord? Quand on écoute le chauffard, on fait tchouva. Qu'est-ce qu'il faut penser quand il y a le chauffard? On pense qu'on est à côté de la plaque toute l'année, combien on est devant le roi, on se rend compte à quel point on était complètement à côté de la plaque et on regrette ce qu'on a fait. Maintenant, le rachage, il a écrit un vidouille à écrire. Il y a, dans le chauffard, il y a trois séries. Tachrat, 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 tarat, tarat, tarat. J'explique ce que c'est en deux mots. Il y a, c'est marqué dans la Torah, que le premier du mois de Tishri, donc Rosh Hashanah, on fera une trois. Trois. Maintenant, chaque fois qu'on fait une trois, on apprend aussi du texte qu'on fait une tkia avant, une tkia après. Une tkia, c'est un son long. Tut. D'accord? Alors, on fait un tut avant, on fait un tut après, et au milieu, on fait une trois. Qu'est-ce qu'une trois? On ne sait pas. Machloket. Discussion. Trois avis. Un avis qui dit que c'est shvarim. Shvarim, c'est tu, tu, tu. Un qui dit c'est trois. 3 c'est tu 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 tu. Un 10 c'est Shvarim 3. Les deux à la fois. Tu 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 tu. Je le dis plus après, ça fait toujours rigoler les gens quand je dis tu 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 tu. D'accord? Alors, vu qu'on ne sait pas, on fait les 3. Alors on fait une fois. Il faut sonner 3 trouottes. 3 fois faire la 3. Hein? Donc on commence par. Je dis, allez, je le redis quand même. On fait tkia tkia. Au milieu, Shvarim 3, ça fait tu, tu. Ça, on fait trois fois. Ça, c'est une série. Après, on fait tachat. C'est tu. Et après, on fait ça trois fois. Et après, on fait la dernière. Au milieu, on fait un tu. Voilà. Pour ne pas vous faire trop rire. Alors, on a trois séries. Entre les trois séries, il y a deux espaces. Une série, on attend. Deuxième série, on attend. Troisième série. Après la Kabbalah, dans ces espaces-là, le rachat, c'est dit qu'il faut faire vidouille. Et dans le sidour, c'est marqué, quelle vidouille dire ? Dans tous les sidourim normaux, tu as la vidouille du rachat. Il faut y aller très vite. À voix basse, parce que le truc, chez nous, que c'est le Pikabala, le minyan où je prie, il fait son chauffeur avec les camins du rachat, ça prend beaucoup plus de temps. Et lui, l'espace, il n'est pas long. Ceux qui ne font pas, je ne sais même pas s'ils ont le temps de faire le c'est, des fois, c'est, ils font tout d'un coup et terminé. Alors, dans les minyan, on a le temps. Il faut aller très vite parce qu'on ne peut pas parler pendant la tkia. Donc, dès que ça recommence, il faut se taire tout de suite. Et il faut finir. Essayer de finir. Alors, il y a une discussion entre les poskim aujourd'hui, entre les décisionnaires aujourd'hui. Est-ce qu'on prononce le vidouille ou on ne prononce pas ? Le Ben Ishraï, Kabbalah. Le Kafahaim, Kabbalah. Le Rabbi Sanaba Shaoul, Kabbalah, ils disent, très important, on le dit. On va dire, Yosef, il est beaucoup moins Kabbalah, il dit, jamais de la vie. Pourquoi ? Il dit une chose qui est très très logique. Il dit que tu fais la bracha avant. Ishmoa kol shofar. D'écouter le son du shofar. Maintenant, si tu fais une bracha sur une pomme, bon, repriez, tu parles. Tu dis, est-ce qu'elle est belle cette pomme ? Ou j'ai pêché, j'ai regardé des filles, j'ai parlé à Jonara, après tu manges la pomme. Bracha le batala. C'est une bracha en vin. Il faut manger, après tu peux parler. Tu ne peux pas faire un arrêt en parlant entre la bracha et la chose pour laquelle tu as fait la bracha. Là aussi, tu fais la bracha d'écouter le shofar. Après, tu entends Tashrat, la première série. Mais qui te dit que c'est la vraie troua ? Peut-être que la vraie troua, c'est Tashat ou Tarat. Donc, d'après la vie qui dit que ce n'est pas la vraie troua, tu as fait bracha le batala. Donc, comment tu peux parler ? Alors, Bisson lui répond une chouva entière, il dit qu'on peut parler, il n'y a aucun problème. Bon, chacun fera comme il veut.
Comment on fait ?
Chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, je parle. Moi, je suis plus côté Robinson, Kabbalah, tout ça. Donc, je fais le...
Qui...
Sinon, ça dépend. Il faut voir à quel minyan tu es. Regardez où vous êtes. Oui, renseignez-vous, vous serez à Rochana, ou ici, ou à Ochanania. Demandez le Chartibourg comment il fait d'habitude. Demandez au Rav Barger, il vous dira tout de suite. Si le Rav Suit, c'est lui qui est le minyan qui est ici. Le Rav Suit vous dira combien de temps il attend les deux. Et si on le dit, on le dit. Si on ne le dit pas, on le dit en pensant. Mais l'essentiel, c'est quoi ? On fait un vidouille. Pendant le chauffard, on regrette nos péchés. C'est ça. C'est ça le sens du chauffard.
Et avant on peut ? Avant Rosh Hashanah ?
Non, pendant Rosh Hashanah, on ne fait pas de vidouille.
Non, avant Rosh Hashanah.
Avant Rosh Hashanah, vas-y, tu t'éclates en vidouille. Maintenant ?
Le vidouille sur nos propres péchés, parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Là, on a le vidouille qui est classique avec Hashanah.
Maintenant, alors aujourd'hui, tu prends un papier, tu écris tous tes péchés et tu te mets à pleurer. Maintenant, c'est le moment de la Shoah, c'est tout Elul. C'est maintenant, pas Rosh Hashanah. T'as raté Rosh Hashanah, tu le fais pendant la Seret Metshuva. T'as raté Yom Kippour, tout Yom Kippour, tu t'éclates en pleurs sur tes péchés. Neila encore plus. D'accord ? Rosh Hashanah, on ne rappelle pas les péchés. C'est un jour de jugement, de din. Tu rappelles tes péchés, c'est très grave. Il ne faut pas, c'est mauvais. Quand on sonne du shofar, quand on sonne le shofar, qu'est-ce qui se passe ? Ça déplace un truc. C'est le Zohar, il dit « Heureux, le peuple d'Israël qui connaissent le secret du shofar. » Parce que par le fait de sonner le shofar, on déplace Dieu de son trône de rigueur sur un trône de rachamim, de miséricorde. À ce moment-là, hop, on peut faire passer le shofar. Au niveau plus midrashique, d'accord, joli, c'est très profond, mais de la façon dont le midrash part toujours très très joliment, quand on sonne le shofar, c'est marqué que le satan, le mal, d'accord, le din, il croit que c'est le shofar du Mashiach. Alors il est pris d'une peur terrible, parce que c'est marqué que quand le Mashiach viendra, on va égorger le Yetzer Hara. Il croit que c'est sa fin, il est complètement méboulba, il perd un peu les pédales, et hop, au moment, tac, on fait passer le vidouille, et c'est passé. D'accord ? Mais avant et après, c'est un jour de din. On peut pas. C'est un jour de rigueur céleste. Donc ce jour-là, on rappelle pas les péchés. On évite plus ou moins de faire des demandes personnelles. C'est trop dur. Alors il y en a qui, comme si par là, quand on ouvre le Sefer Torah à la fin de la prière, il y a quelques prières personnelles qui se font. Mais c'est pas le moment. L'idée maîtresse de Rosh Hashanah, c'est Dieu vient. Dieu se présente. Hachem ori veishi. Rosh Hashanah, c'est la lumière. C'est représenté par la lumière. C'est une grande lumière de Dieu qui se présente. Il vient. Quand il vient, le roi, on se tient en garde à vous, on baisse la tête. On dit, t'es notre roi. Vive le roi. Pas dire, monsieur le roi, s'il vous plaît, vous pouvez envoyer une fois ma grand-mère.
Mais on vend bien la bracha d'année pour la parnassa.
Pardon ?
On vend bien la bracha.
Ce que je t'ai dit, c'est trop dur aux gens de passer une nouvelle année, de ne pas se dire, on va faire un petit truc. Alors on leur fait à la fin de la prière la parnassa, on leur fait qu'on ouvre le echa, la prière pour les malades. C'est permis, on le fait. Mais c'est pas le sens de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, t'es le roi. Par contre, dès la Motsé Rosh Hashanah, t'as les 10 jours de pénitence où Dieu est présent. C'est 10 jours où Dieu est présent, y compris Kippour. Et là, tu t'éclates en demande, en pleurs, en tchouva, en tout. C'est le moment, c'est la dernière ligne droite de toute l'année pour la vie ou la mort. Oui, oui, Kippour.
Un jour, on s'est pardonné, mais on ne devrait pas demander.
On regrette. On fait tchouva. On dit qu'on a péché et on demande aussi. Pourquoi pas? Demande tout ce que tu veux. C'est un jour de rachamim. Le jour du jugement, c'est Rosh Hashanah. Le jour Kippour, c'est un jour de miséricorde divine infinie. Oui, je vais en parler. On parle de ce jour comme étant un océan de miséricorde. Il n'y a plus de din. Rosh Hashanah, on ne se lave pas les mains tout entière qu'à la moitié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mal. Le mal, il est absent. À Kippour. Il peut pas. Donc il y a, on fait jusqu'au bout, pas besoin, parce qu'il ne peut pas arriver si haut. Il y a plein de kedusha. C'est marqué. D'ailleurs, Satan, donc le Satan, d'accord, en valeur numérique, c'est, à Satan, c'est 364. L'année fait 365 jours. Lui, il y a un jour qu'il ne peut pas, 364, c'est sa valeur. 365e jour, Kippour, il n'a aucun, il ne peut pas rêver là-bas. C'est trop simple pour lui. Donc, c'est un jour plein de rachamim. Alors, vas-y. Mais le jour, au contraire, où il y a beaucoup de dîmes, c'est Rosh Hashanah. Alors nous, on fait des prières, on fait toutes les choses qu'on fait à Rosh Hashanah pour adoucir le din. Ce n'est pas le moment d'aller dire maintenant, d'aller dire ses demandes. C'est un moment de, comme c'est marqué, « Imru lefanaï malchuyot », on dit devant Dieu qu'il est le roi. Shofarot, on parle des versets du Shofar, on parle donc, peut-être en très très rapide, je voudrais rajouter, je reviendrai sur le sujet, mais pour finir la réponse à Yona, il y a un autre exemple aussi, qu'une demi-tchouba est extrêmement valable aussi, et qu'il faut la faire. C'est l'exemple des habitants de Yonah, il est allé où ? À Ninive. D'accord ? Il vient, il leur dit, dans 40 jours, Dieu renverse la ville. Ils ont fait tchouva. C'est marqué, ils ont rendu le vol qu'ils avaient dans leurs mains. Chazal disent, le vol qu'ils avaient dans leurs mains, ils ont rendu. Mais ce qu'ils avaient dans la maison, ils n'ont pas rendu. Et néanmoins, après 40 jours, Dieu ne détruit pas la ville. Donc on voit qu'une tchouva même partielle, des voleurs. D'accord, le type, il a 1 million en vent. Ah ouais, tiens, je regarde, tiens, toi, prends les 100 balles que je t'ai pris. Il y a encore 1 million dans le coffre. Et rien que pour ce 100 balles qu'ils ont rendu, Dieu a pardonné. Alors, c'est pas que c'est tous des grands tzadikim, mais c'est suffisant déjà pour la tchouva. Donc, même tchouva infime, elle a une grande valeur. Il faut savoir qu'en spiritualité, chaque petite avance, elle a beaucoup de valeur.
On fait pas la faute du mensonge, en fait ?
Si quoi ? Si tu dis, je fais plus jamais ça, c'est un mensonge, dis pas ça. Dis, Dieu, tu sais que je ne veux pas dire que je ne ferai plus jamais, mais je te promets que je ferai des efforts. Et tu fais des efforts, parce que combien d'efforts ? On peut faire 1000 efforts, on peut faire 2 efforts. C'est au minimum 2. Alors, tu fais 2 fois de l'effort, déjà, tu as fait ta promesse. Essaie de faire 2000. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Sinon, ça peut m'effronter, quoi. Dieu vient et dit, viens, je te pardonne tout, tu n'as qu'à dire que tu arrêtes. Ben non, je continue. C'est pas très tactiquement, pas très intelligent. Alors c'est vrai que tu es intelligent parce que tu ne veux pas mentir. Ok, ne mens pas, mais avance. Fais un petit pas. Dis que tu veux. Dis que tu aimerais bien. Que tu regrettes que tu aimerais bien. Déjà ça, le fait de s'abstenir, j'ai péché, je regrette, c'est déjà quelque chose. Et prends sur toi de faire un peu d'effort là-dessus. Alors, je reviens maintenant sur de quoi je parlais. Non, ça c'est pour finir à Yona, j'ai répondu. J'étais sur Rosh Hashanah, je parlais des... Les chauffards, ouais. Alors c'est marqué comme ça. C'est marqué, dites devant moi des royautés, des ichronotes, des souvenirs, et des chauffards, des chauffards. Comme ça c'est marqué dans la Gemara Rosh Hashanah. Ça veut dire que Dieu demande que nous disons, et comme ça nous faisons, la prière de Moussaf de Rosh Hashanah. Moussaf. C'est la plus longue prière de l'année. Beaucoup plus longue que celle de Kippour. Il n'y a pas de prière aussi longue que ça, elle n'en finit pas. Surtout si on la dit lentement, Ça prend peut-être une heure, t'as mal aux pieds, t'en peux plus. D'accord ? Mais c'est une très très grande prière. On commence normalement la prière avec les trois brachot. Après, on parle de la sainteté du jour de Rosh Hashanah. Et après, on cite 10 versets ayant voir avec la royauté de Dieu. 3 venant de la Torah, 3 venant des Nevi'im, des prophètes, et 3 venant des Ktuvim, des hagiographes. Et le dernier, le 10e, c'est de nouveau Torah. Dans le cas des Malchus, ce sera Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Dieu est un, c'est la royauté de Dieu totale. On dit avec beaucoup de kavana, avec beaucoup d'intention. Après, on fait une bracha Baruch Ata Hashem, Melech HaKa'olam, je ne sais plus comment est la bracha, Dieu du monde, etc. On se tait, chauffard. On sonne du chauffard pendant la Amida. Après, on commence, on dit Ayom Arat Olam, aujourd'hui le monde est créé, c'est la création du premier homme, c'était Rosh Hashanah. On commence à dire 10 versets de Zichron, de souvenir, que Dieu se souvient de tout ce qui se passe dans le monde. Alors, 3 versets de la Torah, après 3 versets des Nevi'im, 3 versets des Ktuvim, on finit par un de la Torah. On fait la Baruch Ata Hashem Zocher Abri, se souvient de l'Alliance, on sonne du chauffard. Après, on commence Shofarot, 10 versets de Shofar, 3 de la Torah, 3 des Nevi'im, 3 des Ktuvim, un dernier de la Torah. On fait la bracha Baruch Ata Hashem, Shomea Kol Shofar, Ayom Berachamim, je vous dis même que c'est à peu près ça la bracha. On sonne du Shofar, et on finit la Amida. Après, dans la Chazara, de nouveau rebelote, on refait tout donc la Chazara du Char Sibour, et là, à chaque fois, on s'arrête 3 fois, on sonne du Shofar. Maintenant, celui qui peut être avec le Char Sibour, lui, le type, il prie maintenant à voix basse. Il arrive maintenant à la fin de la quatrième bracha, celle des Malchuyot. On doit sonner du chauffard, il s'arrête. Pendant sa médaille, il s'arrête. Il attend que le Char Sibour sonne du chauffard et il reprend à voix basse. Si c'est l'inverse, alors comme c'est le cas de beaucoup de gens, comme moi par exemple, qui prient super lent, alors dès que le chauffard commence, tu t'arrêtes tout de suite. D'habitude, il fait un petit bruit avant pour comprendre que tu t'arrêtes. Il sonne du chauffard, tu écoutes, si possible, tu écoutes en pleurant. Il ne faut pas pleurer, Rosh Hashanah. Il ne faut pas pleurer, Rosh Hashanah. C'est interdit parce qu'on a un jour de fête. Mais Rabbi Noir dit que celui qui ne pleure pas, il a une âme défectueuse, il a un problème dans l'âme, d'accord, alors ça veut dire qu'on ne doit pas essayer de pleurer, mais normalement ça doit venir tout seul, parce que la présence de Dieu qui est là face à nous, et quand on se rend compte de sa grandeur, et comme nous on a fait le crétin, je n'ai pas de mots pour dire durant toute l'année, normalement ça doit nous mettre en situation de je ne sais pas quoi, de, c'est pas pitié,
pathétisme.
Non plus, je vais trouver le mot, de... Non, laisse-moi le chercher tout seul, merci. De Itrakshut. On est touché par la situation. On est touché. Donc, il ne faut pas essayer de pleurer. Ceux qui ne pleurent pas, alors qu'ils pleurent au moins sur le fait que son âme est détruite. D'accord ? C'est déjà. S'ils n'arrivent pas à pleurer parce que. La gloire sur ce péché, qu'ils pleurent, qu'ils n'arrivent pas à pleurer. Bon, ce n'est pas si grave non plus. On n'a pas à pleurer, un jour ça va être aussi. Mais normalement, c'est un jour très très grand. Donc on ne pleure pas, mais normalement dans le chauffard, à ce moment-là, on doit être pris un peu de. Évidemment, au bout d'un moment, tu t'habitues, puis le deuxième jour, on n'en parle pas. Hein. C'est terrible, parce que c'est marqué que le premier jour, c'est le jugement, les 3 premières heures du jour, Dieu juge. Pour que tout le monde prie, normalement, on prie au net. On prie il faut être réveillé avant l'aube. Parce que c'est idiot d'être jugé alors que tu es en train de ronfler dans ton lit. D'accord ? Donc dès l'aube, on se lève, on va au mikvé, tout ça, et Berat Hashem, on est réveillé. Et si possible, on ne dort pas toute la journée. D'après la Kabbalah, il ne faut pas dormir du tout, parce que c'est un jour de jugement. En cas, on est très fatigué, on a mal de tête, alors après midi, après le midi juif, on peut se reposer un peu. Mais c'est si possible de ne pas dormir du tout, ni premier jour, ni deuxième jour. C'est des jours extrêmement durs. C'est extrêmement dur. C'est des prières, après, étudier toute la journée, et après, revenir vos prières 2 jours de suite, comme ça. C'est, bon, il y a Shabbat après. Bon, c'est un Shabbat Shuvah, c'est pas un jour, hein, c'est rigolade, hein. C'est un Shabbat qui répare tous les Shabbats de l'année. Donc, il faut le faire. Ils sont parfaites. Le soir, on dort, oui. Le soir, on dort. On doit dormir. Voilà. On se lève, il y a le repas, avec le seder machin, iratson machin, le rimon, la tête de veau, etc., la tête de mouton, d'accord ? Ça prend du temps, après il faut aller dormir, soyez honnête, on ne dort pas beaucoup de temps. Il faut tenir très bon. Et pas perdre une minute. Qu'est-ce qu'on étudie ? Tehilim. Pourquoi Tehilim ? Parce que, on a demandé le grise. Le grise, c'était le Gaon Rabbi Yosef, Yitzhak Zev, sur le Vaitlik. Un Gaon, un génie de Torah. On l'a vu étudier Tehilim, c'est-à-dire lui, il doit faire des pilpoulim, des trucs, c'est pas pour lui. Il dit oui, parce que j'ai peur, quand j'étudie, normalement, alors j'ai peur qu'à un moment, je vais peut-être penser à autre chose. Tehilim, de toute façon, même si je pense à autre chose, tu es en train de le dire. Ça... Donc, pas perdre une seconde si possible, C'est pas un jour, c'est le jour du jugement, d'accord. Il faut prendre le grand maximum. C'est marqué que d'après la tête va le corps. La tête, c'est le premier jour. Pour ça, regardez, on fait très attention de manger la pomme avec du miel, d'accord, pour qu'on ait une année douce. Tu crois que ça fait quelque chose? Ça fait un peu. On voit que ça fait. Ouais, sinon, on ne le ferait pas. On mange un peu de riz, mais qu'on ait une année pleine de mitzvot. On fait des petits trucs de rien du tout qui ont un impact. Ça veut dire qu'à ce jour-là, il a un impact tellement grand. C'est comme, c'est comme la semence qui va créer l'être humain, d'accord? Tout est dedans. Tout est dedans. Donc ce jour-là, toute l'année qui va venir, elle est là. Donc si ça se passe bien, ça se passe bien. Sinon, c'est pas bien. Le truc le plus dur, attention, le plus mauvais qu'il peut y avoir au Rosh Hashanah, c'est se mettre en colère. Et quand on se met en colère, Chas Shalom, après on se met en colère, qu'on s'est mis en colère. Quelqu'un m'a mis en colère. Alors j'en vois encore plus parce qu'il m'a mis. Alors je me mets en colère parce qu'il m'a mis en colère, c'est terrible. Restez calme. Zen. Le Rav, c'est un grand kabbaliste, le Rav, Bethlehem Yehuda, c'est le nom de son livre, Rabbi Yehuda Ftaya, celui qui écrit aussi les esprits racontent, d'accord, pour les fantômes, etc. Il est passionnant à ne pas lire la nuit. Heureusement, il n'existe pas en français qu'en hébreu, donc...
Yehuda comment?
Ftaya. C'est de l'époque du Ben Ishraï, un grand sage de Bagdad. Alors, on raconte qu'il se prépare à aller à la veille de Rosh Hashanah, hein, à la synagogue. Cette gelaba tout blanche de fête, d'accord, devant tout le public, du coup, lampe à huile qui s'est versée dessus, là, la tache d'huile sur le truc. Évidemment, il n'y a pas d'autre habit de Rosh Hashanah, donc il devrait à la synagogue avec son habit tout taché. Il dit, tu veux m'avoir, me mettre en colère? Je ne me mettrai pas en colère. Et il est parti calme, d'accord, c'est dur, cherche, Dieu nous en préserve. Donc, très important de ne pas se mettre en colère toute l'année, spécialement pas à Rosh Hashanah. J'étais parti sur plusieurs points, j'aimerais pas oublier des choses que je devais vous dire. Donc on dort pas. Pardon ? Teilim. Celui qui sait qu'en disant Teilim, il va s'endormir, qu'il prenne une Gemara, qu'il peut tuer la Gemara aussi, il n'y a pas de problème, d'accord ? Pardon ?
Si c'est les deux, je vais m'endormir.
Debout.
Je vais retourner la Gemara.
Oui, ce qu'on veut. Teilim, ce que l'habitude est de faire Teilim. Celui qui sait qu'il va s'endormir. Alors, il peut étudier autre chose, et c'est peut-être bien d'étudier autre chose, parce que mieux vaut ça que s'endormir. Ce n'est pas un grand péché non plus de s'endormir, je dis. On autorise après-midi, mais c'est mieux pas. Ce sont donc des jours difficiles. Et qu'est-ce que je voulais dire?
Est-ce que le mérite, il est le même, le fait d'étudier les Teilim que la Gemara, genre de Rosh Hashanah?
Je pense que oui, parce que Dieu paye durant suivant l'effort fourni. La Gemara, ça nécessite un effort. Teilim aussi, on veut dire avec concentration. L'avantage de Teilim, c'est que c'est des rachamim, ça adoucit le din. Donc c'est pour ça qu'on lit Teilim ce jour-là. Oui. Oui.
Comment tu sais qu'on va faire teshuva sur une faute qu'on a déjà faite? Sur une faute sur laquelle on a déjà fait teshuva?
Parce qu'on a refait.
Hein?
On a refait le péché en attendant ou pas?
Non, on n'a pas refait.
Alors c'est marqué qu'une faute sur laquelle on a déjà fait teshuva, pas besoin d'en faire teshuva. Simplement à Kippour. À Kippour. C'est bien aussi de rappeler les péchés d'antan. Pourquoi? C'est comme un habit qui est sale, qui a une tache. Aujourd'hui, quand il y a une tache, on arrive à nettoyer parce qu'on a des produits extraordinaires de nettoyage. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Alors, les commentateurs ont dit, c'est comme une tache. Plus on lave, plus ça va être propre. Maintenant, plus tu fais tout va, plus tu verses des larmes pour ton péché, plus tu regrettes. Et d'ailleurs, plus tu t'éloignes du péché, plus le regret, il est grand. D'accord? Donc, tu as une chouva qui est plus profonde, plus grande, et elle a plus de valeur. Je me souviens que c'était par rapport à ta question. La question de Michael, comment se fait-il que on est jugé à Rosh Hashanah, après on fait chouva pendant 10 jours? Rosh Hashanah, tu as 2 jours. Après, tu as encore 8 jours, d'accord? Des 10 jours de pénitence. Les deux premiers sont Rosh Hashanah, après il reste encore 8 jours. Dont le jour le plus grand de pénitence, la chouva, c'est Yom Kippour, et la dernière prière de Yom Kippour, la Neïla. C'est idiot de nous juger, après nous laisser la faire tchouva. Qu'on fasse tchouva d'abord, qu'on se nettoie bien tous les péchés, on se lave, après on va être jugé. Alors la réponse est la suivante. On est trop embourbé dans le péché pour faire tchouva. On est trop dans nos habitudes. Même si on fait tchouva, même si à Elul, etc., on n'a pas un regard neuf. Alors Rosh Hashanah, Dieu amène une lumière divine extrêmement haute, qui est comme un projecteur dans notre âme. Et quand il y a un projecteur, des petites saletés que tu ne vois pas, parce qu'il y a une lumière normale, du coup tu commences à les voir. Hein, tu mets un projecteur très grand, tu commences à voir ces mêmes projecteurs avec ultraviolet. Donc, les petits trucs, les petites taches, les petits machins, chaque petite chose tu vois. C'est ça la fête de Rosh Hashanah. Tu as du coup une vision très grande. Comme je dis, pendant le shofar, tu te rends compte à quel point tu étais à côté. Ta tchouva est beaucoup plus grande. Donc c'est un cadeau. D'abord, tu amènes une très grande lumière, nous permettant de voir à quel point on est à côté de la plaque, et là, faire une grande tchouva. Et Dieu repousse le jugement, si nécessaire, jusqu'à Yom Kippour. Et on peut donc, encore Yom Kippour, changer le jugement.
Est-ce qu'il n'y a pas, un sentiment de comédie à tout ça? Parce que si à la rigueur, cette grande lumière, elle était presque tout au long de l'année, avec une petite partie tous les jours, on devait travailler, tout, c'est-à-dire être toujours dans une continuité. Alors que là, en fait, on a vraiment ce jour-là qui nous définit comme ce moment précis. Et presque, je ne vais pas dire tout au long de l'année, bon, c'est moins important.
Mon cher ami, c'est pas facile d'être en face du roi.
On se rappelle, enfin, au moins même 5 minutes par jour, 2 minutes par jour, je sais pas quelle est la lumière, mais là, ce moment-là, c'est presque déterminant sur toute l'année. J'ai un peu mal à comprendre.
Il est extrêmement dur de vivre face à la présence de Dieu. Ça nécessite une tension impossible. Dans le désert, les Israël vivaient comme ça. Ils ne pouvaient plus. Tu vois qu'ils voulaient rentrer en Égypte. Comprends pas, on t'a sorti d'esclavage. On t'a amené maintenant pour servir Dieu. Pourquoi tu veux rentrer en Égypte? Là-bas, c'était gratuit. Gratuit des mitzvot. Je ne devais pas aujourd'hui, je suis astreint face à Dieu à un effort continu, constant, très grand.
Comment on va faire, ma chère, alors?
Comment ça viendra? J'espère qu'on aura plus, etc. C'est exactement ça. C'est ce qu'il y aura, il ne faut pas rêver. Il y aura ça, simplement. Il y aura une tellement grande lumière que les Sarah va être égorgé et bon, on n'aura plus le penchant mauvais. Mais à l'époque, il y avait. Donc maintenant, Dieu vient une fois par année et montre, je suis là, n'oublie pas, je te rappelle. Et ce rappel est très grand et il doit nous porter durant toute l'année. Si c'était comme ça toute l'année, ce serait insupportable. Bon, oui.
Si on s'est d'accord, comme vous avez dit tout à l'heure, que si on prend quelque chose sur nous à Rosh Hashanah, pendant le temps de Jehovah, on est forcément inscrit dans l'une des Tzadikim.
Oui.
Alors si, voilà, par exemple, quelqu'un qui... Je prends sur moi, par exemple.
Ouais.
Donc, c'est tout le temps la mezouza.
Ouais.
Et je l'ai pris sur moi. Alors, pourquoi je vais faire kippour, sachant que je suis déjà inscrit dans le livre des...
Oui, oui, mais il y a tzadik et tzadik. D'accord. Il y a deux ans, regarde, il y a deux mondes. Il y a le monde des morts et le monde des vivants. OK. Tu es inscrit dans le monde des vivants. Youpi. OK, mais quel vivant? Tu as un redressement fiscal, les huissiers, un divorce, des maladies, pas toi, quelqu'un d'autre, d'accord. Tout ça à la fois. Tu es vivant. Avec Tchouva, il n'y a plus tout ça. Qu'est-ce qui est mieux? Ben voilà. Oui.
Alors, on a dit que les jours de pénitence après Rosh Hashanah, c'est pour faire pencher la balance quand elle est à peu près égale.
Oui.
Alors, c'est dire, on ne sait pas si elle est à peu près égale. C'est trop, on est plus côté Rachid, plus côté Sati. Dans ce
ouais.
cas-là, ça ne servira à rien.
Oui. Ouais.
Ça sert à quelque chose.
Oui, alors la majorité sont considérées comme Bélanim, comme égalité. Parce que d'habitude, les souffrances que nous vivons, elles font que même si on était coupable, ça rétablit à égalité. On ne sait pas où on est. Mais il se peut qu'on ait égalité et cette éventualité est tellement grande qu'on doit faire tous les efforts pour aller dans ce sens. De toute façon, même si on est inscrit dans le livre de la vie, comme je viens de répondre maintenant, donc c'est déjà inscrit dans le livre de la vie, il y a quelle vie et quelle vie. Donc, mettre toutes les choses de côté pour qu'on ait une année bonne, proche de Dieu, non seulement bonne au niveau physique, mais au niveau métaphysique, c'est ça l'essentiel. Tout dépend de ces 10 jours. Donc il faut vraiment, vraiment, dès aujourd'hui, voilà, c'est cette semaine, mettre les bouchées doubles, triples, quadruples, faire son bilan, prendre une décision, bien réfléchir. Notre Hachem, Dieu nous inscrira dans le livre de la vie, et notre Hachem, on aura aussi ma chère cette année. Bah, ouf, Adonai, mais...